Bon, à la suite de ce qui s'est dit, je voudrais m'étonner qu'un mot n'ait encore jamais été employé dans tout ce débat. C'est le mot de sacré. Je le prends bien entendu dans un sens non religieux, tel que la sociologie contemporaine a pu le définir. Or, il est frappant, et c'est bien d'expérience intérieure qu'il s'agit, il est frappant que le surréalisme, et Breton en particulier, d'une part, Bataille, d'autre part, ont eu avec la notion de sacré des relations fortes, des relations même passionnelles. L'approche de Bataille, informée par Mauss, est souvent sociologique. Mais Bataille, comme Breton, et comme tous les surréalistes qui ont pratiqué l'automatisme notamment, sont également des praticiens du sacré. Des gens qui se sont engagés dans des opérations appliquant une intervention matérielle, nécessairement, comme celle d'écrire par exemple, ou tout autre, et qui ont, semble-t-il, élu certaines méthodes d'approche de l'objectif du sacré, qui pourrait être d'ailleurs ce brillant intérieur dont on parlait. Et cette direction me paraîtrait pouvoir être explorée. Ça pourrait élucider par exemple certaines contradictions apparentes, notamment le malentendu qui semble se greffer sur la notion des œuvres, ces œuvres qui sont toujours en dessous du projet, et même qui peuvent être passées pour une trahison du projet. Quel est le rôle des œuvres dans le surréalisme, par exemple? Qu'elles soient l'œuvre des surréalistes eux-mêmes, comme des peintres ou des écrivains, ou des œuvres venues d'un monde lointain, dans le temps ou dans l'espace, je pense aux arts primitifs, ce ne sont pas des œuvres qui sont choisies pour leurs qualités esthétiques, même si elles en ont, et même si elles sont vues et appréciées. Ces œuvres sont choisies parce qu'elles sont les résidus d'opérations, d'interventions d'ordre magique, par exemple, appartiennent donc à la pratique du sacré dont je parlais tout à l'heure, et qui sont donc les témoins de ces tentatives désespérées pour aller aux confins du possible. Je crois que là, on pourrait noter des différences, certainement, dans les méthodes d'approche, dans les réactions et dans les attitudes, mais qu'on trouverait davantage de convergence que de différence, en profondeur. C'est tout.
Ajouter quelque chose à ce que vous disiez tout à l'heure. La phrase que vous citiez, la phrase du coupable, sur le sens de l'entrée d'un train dans la gare Saint-Lazare, je reviendrai à ce point, me paraît manifester justement l'opposition, une des oppositions quand même, entre l'attitude profonde de Bataille et celle de Breton, qui est celle de la présence du contingent. Qu'est-ce que ça veut dire le sens, hein? Vous avez dit, ça serait trop compliqué, ça serait très dur. Effectivement, ça serait très dur de développer. Je crois que si on prend par exemple un livre comme Nadja, qui est un livre plein de rencontres, effectivement, le surréalisme fait intervenir le quotidien et le contingent, mais en lui donnant un sens, c'est-à-dire une espèce de monde aura magique ou sacré, tandis qu'au contraire, le sens profond de l'expérience intérieure, c'est l'expérience du non-sens du contingent. Bon, c'est un premier point, et enfin, il y a un second point sur lequel je voudrais revenir, qui est cette coupure de 933 qu'il ne faudrait peut-être pas quand même trop exagérer, car le contenu de ce que Bataille appelait l'expérience intérieure, qui est une extase précise qu'il a eue, je ne sais plus la date, qui est une extase à base érotique, où il s'identifie avec un pénis en érection, date de 1927, enfin je veux dire la première fois qu'elle est mentionnée, c'est dans ce voyage, ceci pour dire qu'il n'y a pas une coupure, mais que l'expérience intérieure est quand même enracinée dès l'origine des textes de Bataille, enfin ce voyage à Londres où il a eu ce fantasme en regardant deux points donc ce que je voulais dire.
À propos de Breton et Bataille, je posais l'unité de Breton et la division, la déchirure de Bataille. En fait, j'ai l'impression que l'un et l'autre ont voulu retrouver un sacré sur une base concrète beaucoup plus authentique que ce qu'on peut trouver dans les églises quand on pratique les choses superficiellement. J'ai l'impression que Breton et Bataille ont trouvé le sacré dans l'émerveillement, l'intensité qu'ils ont pu trouver aussi bien par la poésie, le paysage ou l'amour, et à ce moment-là, Bataille n'est plus divisé. J'ai l'impression que l'un des
L'un des moments où Bataille montre son unité, c'est dans sur Nietzsche, lorsque, dans une période de passion en forêt de Fontainebleau, on voit en une certaine page la nuit, lorsqu'il monte sur un rocher, lorsqu'il vient de voir un visage aimé, Bataille passe tout d'un coup d'un état affectif humain à une sorte de dépassement. Et j'ai l'impression que ce dépassement peut arriver chez tout le monde, est arrivé peut-être renforcé chez lui parce qu'il a eu une très longue expérience intérieure préalablement. Mais j'ai l'impression que Breton, lui aussi, a valorisé tout ce qui provoquait pour lui cette espèce de dépassement, d'exaltation, de, appelez-le comme vous voudrez. Les deux ont insisté sur la valeur d'un vrai sacré concret, que je nommerai d'un mot l'émerveillement, à partir des bases les plus diverses. Et Bataille a développé ça de façon plus discursive que dans sur Nietzsche ou que dans tel ou tel autre de ses livres, dans l'érotisme par exemple, où il dit qu'il veut montrer, souligner l'unité entre ce qui anime les mystiques, la passion brûlante, etc., et la brûlure qui est dans l'érotisme. Je ne crois pas que Bataille ait voulu confondre les mêmes domaines, mais là on touche un point qui est extrêmement délicat à débrouiller, parce qu'on peut très bien provoquer dans l'étude du sujet un aplatissement, c'est-à-dire réduire brutalement un élément à l'autre, alors que j'ai l'impression qu'il y a une conjugaison et que l'un sert de tremplin pour l'autre. Mais chez Bataille et chez Breton, je crois que compte le moment du dépassement. Et cette notion d'instant que Bataille a aimé retrouver chez Breton, et c'est une notion qui serait à étudier, qui est extrêmement riche dans la littérature de l'époque, tout au moins à travers tel ou tel témoignage. Et c'est une sorte d'illumination non cherchée et qui tout d'un coup vous décroche de toutes les trivialités de la vie et qui vous fait passer dans une autre dimension sans être asservi aux limites morales ou dogmatiques. Ce qui intéressait Bataille, c'était essentiellement de rendre à des gens qui n'avaient aucune croyance la possibilité d'une expérience éminemment intense. Et là, je crois que Breton et Bataille ont travaillé dans le même sens. Et là, il faut oublier toutes les querelles ou bien les rapprochements qui ont pu se faire. Je crois que tous les deux ont été dans le même sens. Peut-être l'un, tantôt l'un dépassant l'autre. Autant de documents, c'était Breton qui allait plus loin dans un certain sens, et Bataille s'en moquait. Et après, c'est Bataille qui a eu l'impression d'avoir été plus loin, ce que je crois vrai aussi d'ailleurs. Voilà tout ce que j'ai à dire, mais cette récréation d'un sacré authentique, c'est leur œuvre commune. Et ce contre quoi ils étaient, c'était non pas l'hypocrisie des églises, mais la fadeur de ce qu'on peut y trouver lorsqu'on reste dans la petite routine. Et en fait, je ne sais pas exactement ce que Breton pouvait mettre dans Eckhart, mais Eckhart fait partie de la constellation de noms qu'énumère Breton. Il ne vous en a jamais parlé, d'Eckhart. Qu'est-ce qu'il en pensait ?
Je voudrais appuyer ce que vous voulez dire à partir de, selon une autre direction, c'est que ce qui a compté, je crois, ce qui a compté, c'est la détermination chez Bataille de se livrer à ce qu'il a appelé l'expérience intérieure, et la détermination chez Breton de rechercher ce qu'il a appelé le moi profond. N'est-ce pas ? Et cette détermination est de même nature, je crois. Et c'est une exigence, c'est une volonté qui était en eux, en chacun d'eux, extrêmement puissante, qui faisait qu'ils ne pouvaient s'en déprendre, et que le résultat soit différent, et toutes les discussions qu'on a eues, que le résultat, ce qui a été obtenu chez l'un et ce qui a été obtenu chez l'autre, soit différent et puisse passer pour contradictoire, ça me paraît tout à fait évident, c'est patent, mais ce qu'il y a de commun, commun, c'est la détermination d'en finir avec un certain nombre de présupposés de type rationaliste ou le pendant du rationalisme, en effet, le faux sacré que représentaient les religions, pour essayer d'aller un peu plus profond dans, selon la terminologie, le moi profond de Breton, l'expérience intérieure de bataille. Les résultats étant différents. Mais la détermination, la volonté d'ouvrir cette porte est, à mes yeux, la même. Alors, pour répondre à votre question, enfin, évidemment, autour du sacré tourne toute cette constellation qui est de Joachim de Fiord, Maître Eckhart, Jacob Boehme, enfin, tous les mystiques théosophes et hérétiques qui ont, dans lesquels, en effet, Breton a pu discerner des messages qui permettait à l'homme d'accéder à un sacré authentique par opposition au sacré exotérique présenté par les religions majoritaires.
Ce qu'il y a de très remarquable, n'est-ce pas, beaucoup de cas, c'est justement, j'y pensais pendant que tu parlais, dans Pleine Marge, qui est entièrement consacré à l'énumération comme ça des hérétiques que Breton revendique. L'une des choses, enfin, peut-être qu'il y a de plus frappant, c'est qu'il l'appelle par un jeu de mots, Maître Eckhart, mon maître, dans l'auberge de la raison, et donc là on est en pleine, comment dirais-je, en apparence rationaliste, n'est-ce pas, parce que ça continue, où Hegel dit à Novalis, avec lui nous avons tout ce qu'il nous faut, et ils s'en vont, et ils partent, et Breton continue en disant, avec eux et le vent, j'ai tout ce qu'il me faut.
Pour Eckhart, évidemment, il y a le fait
oui, il y a le fait d'hérétique, mais justement, c'est assez intéressant qu'au milieu de tous ces hérétiques arrive quelqu'un où le mot raison arrive dans. Elle se situe à l'auberge, enfin, d'une manière qui est quand même la raison, peut-être la profonde raison dont je parlais là dans mon texte, n'est-ce pas, sur Bataille, c'est possible. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais la sensation, en écoutant ce qu'il disait, que à partir, n'est-ce pas, en effet, de ce parallélisme, parce que les parallèles ne se croisent pas, mais disons de ces deux points de départ parallèles qui engendrent ensuite une sorte d'entre-là entre Breton et Bataille, d'entre-là historique, il y a donc certainement ce désir de choses que l'un appelait le moi profond et l'autre l'expérience intérieure poussée, disons, jusqu'à la souveraineté, mais il y a aussi, et je crois que là, c'est là où le titre Bataille et le surréalisme rend bien compte d'un état de fait, mais plus complexe qu'il en a l'air de prime abord, c'est que l'un et l'autre ont éprouvé ce que j'appellerais la tentation de faire passer ça dans une activité communautaire est un mot désastreux. Enfin, je ne peux pas dire communiste, alors je dirais commune, faute de mieux. Le groupe pour Breton, n'est-ce pas, le mouvement surréaliste incarné dans une série de groupes, représentait la mise en commun, n'est-ce pas, des mois profonds à partir d'expériences dont l'écriture automatique est la première, mais qui n'a pas été la seule. Il a fait également un très grand cas des premiers jeux surréalistes parce que justement des mois profonds pouvaient s'y fondre au moins à titre de dialogue. Par exemple. Et chez Bataille, il y a eu justement au moment d'Acéphale et de la formation du groupe, cette tentative de groupe, disons, mystique, il y a eu donc cet appel à, disons, une religion farouche, et se trouve, me semble-t-il, lié très très précisément, n'est-ce pas, les textes d'Acéphale comportent aussi des textes politiques. Ces textes politiques, on dit que c'est le moment du Front populaire, et on dit que la revendication ouvrière dépasse le pain, enfin je me rappelle précisément de la formulation, enfin qu'il s'agit d'autre chose seulement que de pain, et Bataille met en épigraphe, peut-être pas du premier numéro, mais en tout cas d'un article, une phrase de Benjamin Constant qui est à peu près ceci, l'ébranlement qui a lieu actuellement dans notre société n'est comparable qu'à celui qui précéda l'avènement du christianisme. Qui s'explique très bien, puisque toute l'opération est montée au point de vue scénario dramatique, n'est-ce pas, sur la revendication du Dionysos de Nietzsche opposé au Christ. Et je le sais parce qu'il me l'a dit, que Breton pensait rigoureusement la même chose de cette phrase de Constant. Je veux dire que pour lui, n'est-ce pas, la phrase de Constant s'applique au romantisme, n'est-ce pas? Et Breton pensait que c'était la même chose. C'est-à-dire que lui aussi pensait que la crise qui secouait le monde occidental et disons le monde en général maintenant presque, n'est-ce pas, était une crise de caractère, de caractère donc disons religieux entre guillemets. Et c'est tout. Enfin, j'en parle uniquement parce que c'est cette citation qui est une référence au romantisme dont l'un et l'autre procèdent à travers des voies très lointaines et très tordues, n'est-ce pas, et qui affleure chez Bataille au moment même où il essaye lui aussi, n'est-ce pas, de provoquer chez des amis des prises de conscience semblables aux siennes. Alors que par exemple tout à l'heure vous ayez parlé de volte-face ou de cabriole qu'ils ont peine à suivre, c'est très normal parce que dès qu'on entreprend de communiquer justement sur l'intérieur, on a la plus extrême difficulté déjà à se faire comprendre dans le langage discursif, mais quand il s'agit en plus d'inviter les autres à poursuivre pour leur propre compte des expériences semblables aux vôtres, on se trouve devant forcément une série de, sinon de désillusions, tout au moins de gens qui décrochent, qui ne suivent plus. Et une grande partie de ce qui s'est passé dans le surréalisme de la part de Breton à l'égard des gens qui l'entouraient, a été très souvent, enfin les tempêtes qui ont eu lieu, ont été très souvent commandées chez Breton par l'impatience qu'également on ne comprenait pas, non pas ce qu'il émettait comme discours théorique, mais qu'on ne participait pas avec la même exigence intérieure à ce que lui espérait pouvoir mettre en commun.
Croyez-vous pas que, puisque vous parlez de moi profond, d'écriture automatique, d'expérience intérieure, il y aurait à avoir tout de même une racine commune, qui est tout de même la découverte et la voie royale de l'inconscient, qui est Freud, et pour prononcer un mot, puisqu'il s'agit ici de Bataille, de citer le nom d'un ami de Bataille qui était à toutes les réunions, je pense, ou presque toutes, du collège de sociologie, donc qui servait de secrétaire, et dont je n'ai pas encore entendu prononcer le nom, c'est le nom du docteur Alain Dee. C'est Alain Dee qui a servi souvent, et volontiers, de trait d'union entre l'un et l'autre, par ses connaissances profondes de l'analyse.
Je vais dire simplement qu'il y a à l'exposition Bataille une déclaration du bureau de recherche surréaliste, qui je crois était rédigé par Artaud, où il dit « il s'agit du surréalisme, est un cri de l'esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ses entraves. » Je crois que c'est un des points fondamentaux qu'aurait pu signer aussi bien Breton que Bataille. Alors, le surréalisme est un cri de l'esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ses entraves.
Il y a un seul mot sur les œuvres, enfin le problème des œuvres tel qu'il a été soulevé par Bataille. Il y a dans un texte de 1955 de Breton qui s'appelle « Du surréalisme en ses œuvres vives », Breton répond à une question qui s'est souvent posée, qui lui a été souvent posée, pourquoi, à partir de la découverte de l'écriture automatique, pourquoi ne pas avoir continué à faire des textes automatiques et à leur publier notamment dans les revues surréalistes des textes automatiques. Et Breton répond, alors ça je livre ça à votre méditation sans faire de commentaires, l'important, je ne cite pas textuellement, mais enfin à peu près, l'important était d'avoir découvert le filon, et non pas la matière première, et non pas de l'exploiter à perte de vue.
En ce qui concerne la réflexion que vous avez faite tout à l'heure, docteur, j'ai l'impression que l'inconscient, Bataille l'avait largement exploré au niveau psychanalytique à travers des œuvres érotiques assez virulentes qu'à peine maintenant on ose publier publiquement, et c'est à ce moment-là qu'il, si vous voulez, qu'il a exploré son subconscient, qu'il a fait sortir des choses étonnantes qui nous surprennent quelquefois maintenant, et ce n'est pas cette dimension qu'il a explorée lorsqu'il a eu l'expérience intérieure. Il arrive que chez des gens qui suivent une certaine voie intérieure, qu'il y ait des sortes d'explosions, des instants où surgissent des pensées comme des bulles venues du subconscient, peut-être parce que les parois, à ce moment-là, le diaphragme, si vous voulez, qui sépare les différents niveaux, est aminci, cède, peut-être parce qu'il y a une unification, mais en fait, l'expérience intérieure, dans la mesure où elle est une illumination, et je crois que Breton l'a parfaitement vécu à certains moments, même s'il n'a peut-être pas toujours été parfaitement conscient de ce qui lui arrivait, je crois que ce niveau n'est absolument pas le niveau de l'émergence du subconscient.
je croirais que l'illumination que Bataille a vécue à la fin comme des espèces d'instants d'annulation qui suspendaient toute souffrance et tout attachement, chose qui semble étrange, ces moments-là créent une autre dimension dont je parlais tout à l'heure, et c'est dans cette exploration de cette dimension autre qu'est, je crois, l'un des efforts communs de Bataille. Je ne crois pas que ce soit dans l'exploration du subconscient que Breton, lui, a fait merveilleusement à travers les rêves, l'étude des rêves, avec sa connaissance de la psychanalyse, etc. Mais je crois qu'on est là, tout de même, dans deux chapitres un peu différents. Et pour terminer, je voudrais dire que vous avez parlé tout à l'heure de la raison dont Breton voulait qu'elle accompagne une recherche intérieure. Eh bien, Bataille a dit la même chose en citant Nietzsche, Nietzsche disait qu'une, je n'ai pas la phrase exacte en tête, mais elle serait facile à retrouver, que cette dimension devait être explorée à l'aide du rationalisme le plus clair. Mais il ne faut pas oublier aussi que un des
qui est bien dans un pays mystique pour laquelle est accompagné par le rationalisme en effet.
C'est ça. Mais alors, je dois dire qu'à ce moment-là. Qu'à ce moment-là, il y a tout de même une dimension qui surprend les gens qui raisonnent comme nous, comme moi, parce qu'on n'arrive pas toujours à dépasser son propre petit esprit mécanique. Et je crois qu'à ce moment-là, dans les moments de contemplation, l'esprit est annulé, l'esprit fonctionnant discursivement est complètement annulé, et là je devrais faire l'éloge d'Acéphale, du côté acéphalique de Bataille. Bataille était un homme rationnel, antidogmatique, mais en même temps, il y a des moments où la pensée chez lui était oblitérée par un état tout à fait différent, état peut-être auquel notre pensée discursive, notre mécanique mentale qui était quand même un petit ronron, et la philosophie quelquefois est ce petit ronron, eh bien notre mécanique mentale nous obture ce passage à l'autre dimension. Et je crois que Bataille et Breton étaient entièrement d'accord là-dessus. Le non-rationalisme ou l'irrationalisme qu'on trouve chez les deux, malgré leur attrait pour la raison, me paraît. Voilà, peut-être que je finisse. Mais non, je peux en parler dit ça. Fermez votre machine.
Merci, je voulais remercier les invités, préciser que la plupart d'entre eux vont participer à de prochaines manifestations sur Bataille. Particulièrement Bernard Noël, Jérôme Peignot, Jean-Pierre Faille qui viendront après l'Archangélique et l'histoire d'une petite fille que réalise Catherine Houdin qui est à mes côtés. Jean Schuster, Georges Golpen et Jean-Christophe Bagui organisent la soirée du 2 avril sur Bataille et l'exigence révolutionnaire et bien sûr Ollier pour Bataille littérature actuelle.
Découvre tel quel
et sur Georges Bataille l'héroïsme. Voilà, je précise que la semaine prochaine, c'est le montage audiovisuel sur les pas de Georges Bataille.
Et puis, il y a moyen que chacun se nomme pour le montage qu'on reconnaisse les voix. Parce que, si vous voulez. Alors, vous êtes là, monsieur.
Bon, alors, qu'est-ce que je vous dis ? Simplement mon nom, Patrice Février.
Vous voulez rester là, s'il vous plaît, personne qui n'a pas appelé.
Que personne ne sort.
Jean Bruno.
Il y avait un jeune homme là qui a parlé, je ne le vois plus. Bon, vous.
Schuster.
Philippe Audouin.
Marguerite Bonnet.
De défaire la bande magnétique.
Non, j'ai pas parlé. Annie Levin.
Oui.
Henri Batch.
La petite.
Jean-Christophe Bailly.
Bernard Noël.
Oh.
Alain Jouffroy.
Denis Ollier.
Jean-Pierre Faille.
C'est pour reconnaître. Pour le.
Alias,
qui est.
Esteban.
Gérard Legrand.
Les nœuds, là. Docteur Gérard, ça, on l'a enregistré hier, on le sait.